Ouellet, en direct.
Avec JC et Patricia.
Attention, please.
Radio X.
À un moment donné, dans un dossier qui concernait la DPJ, j'ai entendu une mère poser une question. Je me souviens même plus c'était quoi le dossier, puis ça fait un certain temps. Puis je me souviens pas du nom de la mère, mais la question, je m'en souviens parce qu'elle m'est restée dans la tête et elle a été reprise par de nombreux intervenants au cours des années. La question était, est-ce que le Québec aime ses enfants?
Ah, on fait semblant.
En tant que père, tu sais, j'ai de la misère avec ça, là, parce que moi, ma réponse est claire. Là, tu sais, ce matin, je vous ai fait un colu, ils sont partis à l'école. Mais quand on lit les histoires de la DPJ, puis disons que des histoires, là, des histoires à la Grambe, puis des histoires comme ici dans la région de Québec, des agressions sexuelles répétées pendant des années, voire une décennie, puis des histoires comme ça, il y en a chaque année. Là, on a ça dans l'actualité.
Ben, la culture de l'omerta aussi à l'intérieur des murs.
Ben, parce que quand on demande est-ce que le Québec aime ses enfants, moi je pense que oui. Mais est-ce que via ce qu'on fait pour eux autres, les enfants abandonnés, les enfants maganés, est-ce qu'on prend le temps et est-ce qu'on fait bien les choses? Ça, c'est une autre histoire.
On est dans les apparences.
Souvent. Et je pense que notre prochaine invitée est probablement l'une des plus pertinentes pour jaser de ce sujet-là. Un, parce qu'elle est elle-même une enfant qui a vécu à travers les histoires de DPJ. Parce que c'est quelqu'un qu'on a connu en tant que journaliste et parce que c'est quelqu'un qui a décidé de retourner vers ce combat-là. D'ailleurs, c'est un grand honneur de la recevoir parce que moi, quelqu'un qui décide de passer sa vie à se battre pour un dossier puis à se battre pour quelque chose dont on a un besoin viscéral, c'est-à-dire nos enfants, bien, ça mérite tout notre honneur. Elle est au bout du fil, journaliste, auteure, conférencière, cofondatrice de l'organisme Équipe Jeunesse. C'est Mme Nancy Audet qui est là. Mme Audet, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien. Très occupée. Je vous mentirai pas que depuis qu'on a lancé Équipe Jeunesse, on a énormément de jeunes qui viennent nous voir parce qu'ils ont besoin de soutien. C'est la mission de notre organisme, là, aider non seulement les jeunes qui sortent du système de la protection de la jeunesse puis qui ont beaucoup de difficultés à manger, à se vêtir, à vivre décemment. Donc, on essaie de venir en renfort. Mais on accueille aussi des jeunes qui n'ont pas ce parcours-là, mais qui sont quand même en situation de grande vulnérabilité. Puis bien sûr qu'on leur ferme pas la porte. Fait que disons que ça cogne beaucoup, beaucoup à notre porte ces temps-ci.
Puis évidemment, on y reviendra. Je veux qu'on on replogue, excusez l'expression, là, Équipe Jeunesse avant de se quitter. Mais si vous êtes là, c'est parce qu'il y a un besoin non comblé, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on fait pas si bien que ça. Puis j'aimerais qu'on en parle. Le 11 juin, donc la semaine dernière, la DPJ a déposé son bilan provincial et on apprend que plus que jamais, il y a des signalements et il y a des jeunes dans misère au Québec. Je le dis de même parce que c'est ce que je ressens. 144 321 signalements traités au Québec. Je pense que c'est un record. Et on nous dit que si on veut le mettre en image, c'est un enfant signalé dans le trouble à toutes les 4 minutes. On est 9 millions au Québec. Est-ce que ça se peut?
Ventable. Je le disais, c'est l'équivalent d'une ville comme Trois-Rivières. Ça, c'est le nombre de signalements au Québec
chaque
actuellement.
Année.
C'est du jamais vu. Je trouve que c'est un record triste. On doit tous être très inquiets de ça. 400 enfants par jour. Là, imaginez dans votre tête, là, à l'extérieur de vos studios, 9 gros autobus jaunes d'école là, qui ont rempli ça d'enfants chaque jour. Ça, c'est le nombre de signalements qu'on a au Québec. Donc, on a plus de signalements en ce moment pour maltraitance, négligence au Québec qu'on a de naissance chaque année. Pour moi, on a franchi pour moi un niveau qui est plus qu'inacceptable. Puis, tu sais, je suis rendue à un point où j'ai envie de shaker tout le monde.
Mais c'est parce que, ces enfants-là sont pas sortis d'un marécage. Là. C'est pas des zombies qui sont revenus à la vie. C'est des enfants qu'on a mis au monde. Donc, je suis obligé de poser la question qui semble drastique, mais est-ce que le Québec aime ses enfants? Pourquoi on a... est-ce que c'est comparable ailleurs? Est-ce que c'est une crise mondiale de difficultés à l'enfance? Qu'est-ce qui se passe?
Bien, je pense que ça existe dans plusieurs pays, même au Canada, dans d'autres provinces, on voit qu'il y a une grande fragilité. On n'est pas les seuls. Par contre, au Québec, on ne se démarque pas dans certains secteurs, notamment là, le soutien aux jeunes qui quittent le système. Là, on est en queue de peloton.
Ah ouais, ça,
puis ça, c'est on les laisse vraiment à eux-mêmes. Puis ça, on est les pires là, au Canada. Puis ça a des conséquences parce que ces jeunes-là, quand ils sortent, ben après ça, ils deviennent parents. Puis comme on n'a pas pris soin d'eux, comme ils n'ont pas eu de soutien, mais là, c'est une roue qui tourne. Et malheureusement, ils perdent leur enfant. On voit en ce moment dans les centres jeunesse du Québec, les anciens intervenants qui sont encore là, ceux qui ont beaucoup d'expérience, qui sont là depuis plus de 20 ans, ben aujourd'hui, ils s'occupent des enfants de leurs anciens. Puis pour moi, ça, c'est un grand constat d'échec.
Ben oui.
Ça me fait mal au cœur de vous le dire parce que c'est des jeunes que j'aime profondément. C'est des jeunes qui, comme tous les jeunes, qui ont du potentiel, je les côtoie presque quotidiennement, mais qui ont tellement vécu des choses graves dans l'enfance, de la négligence, de la maltraitance, de la négligence éducationnelle, des agressions sexuelles, puis ils n'ont pas eu de soins. Je leur demande tout le temps, as-tu reçu des soins? As-tu vu un psychologue? As-tu même vu un médecin? T'sais, parce qu'il y a aussi des séquelles physiques. Puis la réponse, c'est toujours non. Je suis comme, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes-là? Puis qu'est-ce qu'on espère qui va arriver d'eux autres? On espère quoi? Que c'est comme une formule magique, puis qu'ils vont réussir à s'en sortir comme ça, tout seul?
Est-ce qu'on traite les centres jeunesse un peu comme des prisons? Parce que, puis même en prison, on me dit qu'il y a des psychologues, puis des thérapies, puis des thérapeutes, puis des gens qui encadrent, peut-être pas assez, là, mais je veux dire, est-ce que. Parce que moi, je suis naïf, là, tu sais, moi, je passe souvent devant un centre jeunesse, puis je me dis, ben écoute, au moins, ils en prennent soin, ils ont un toit, ils ont des repas, il doit y avoir des gens qui leur donnent des cours, il doit y avoir des gens qui s'occupent de leur santé mentale, mais si on me dit non, à quoi ça sert un centre jeunesse?
Ben la réponse, c'est non. Puis la réponse, c'est que ça fait plus de 20 ans qu'on le sait que ça ne fonctionne pas, les centres jeunesse.
C'est des prisons, dans le fond?
Ça fait 20 ans, ben oui. Ben oui, c'est des prisons. Je veux dire, il faut rentrer à l'intérieur pour comprendre. Il faut rentrer. C'est des petites unités. On empile les enfants les uns sur les autres. Là, j'apprenais, il y a une intervenante qui me disait qu'on a décidé d'augmenter. Pouvez-vous croire qu'on décide en ce moment, là, en 2026, d'augmenter encore le nombre d'enfants par unité? Vous mettez 13 enfants, 14 enfants qui ont subi des traumas complexes ensemble dans la même unité. Ben, là. Imaginez, là. Moi, j'ai des familles qui ont un enfant, des fois, sur trois, qui a certaines difficultés de comportement, puis les parents sont à bout de nerfs, sont fatigués, sont épuisés. Là, on a des jeunes qui ont subi des traumas, puis on les met 13 ensemble. Puis on espère quoi? Dans des petites chambres, pas de vie. Il y a des cellules d'isolement. Il y a des mesures de contention. Il y a de la contention chimique, on les bourre de médicaments pour les assommer parce qu'on n'est pas capable de les gérer, parce qu'on n'a pas les ressources pour leur apprendre à gérer leur colère, leurs émotions, leur tristesse, leur détresse. Donc, on les bourre de médicaments, puis on pense que comme ça, c'est quoi? Encore là, ça va être magique, ils vont guérir. Puis quand ils se fâchent, quand ils se désorganisent, bien, mesures de contention, isolement.
Oui, en cellule.
Vous comprenez, en cellule. Donc, moi, je suis rentrée. Moi, j'ai déjà subi l'isolement dans une cellule qui est verrouillée de l'extérieur pendant que j'étais en détresse. J'ai subi aussi une fouille à nu. C'est très intrusif. C'est difficile de vivre ça pour un enfant qui a vécu des traumas. Donc, tu me parlais tantôt des pénitenciers. Puis, tu sais, c'est plus réglementé dans les centres de détention au Québec qu'en centre jeunesse. T'sais, d'ailleurs, il y a les prisonniers ont gagné un recours collectif là, pour des fouilles à nu qui ont été abusives. Mais dans les centres jeunesse, c'est pas pour les jeunes. Il n'y a pas personne qui défend les droits de ces jeunes-là. Dites-moi qui au Québec défend les droits de ces jeunes-là?
Je n'ai pas en tête, mais si vous me parlez des prisonniers, je sais, je les connais. On a des organismes qui s'occupent de la défense, de la protection des droits des prisonniers. On les connaît.
Ben oui, mais les jeunes, eux autres, il n'y a personne pour porter leur voix.
Non, ils subissent, puis ça, c'est pas juste en DPJ. Là, je veux dire, il y a un manque de transport scolaire. Là. Le lien que je veux faire, c'est que la protection des enfants, mais un manque de transport scolaire en Beauce, où on a des jeunes qui vont devoir choisir s'ils peuvent poursuivre leur sport-études. On coupe là-dedans, on coupe dans le sport chez les jeunes. Fait qu'assurément, il n'y a jamais personne qui prend la voix des jeunes. Là, j'ai envie de revirer ça de bord un peu, puis je me dis, tu sais, là, des fois, on parle l'univers des écoles. Puis on va dire, ah, les écoles, ça va pas bien. Mais des fois, il y a qu'il y a des écoles, entre autres, ou privées aussi, mais il peut y avoir une école publique qui va bien, qui réussit à trouver une recette gagnante qui fonctionne. Puis bon, est-ce qu'il y en a des... Parce qu'on le sait que ça va mal, puis on le sait que c'est pas viable, surtout à la sortie. Là, puis ça, c'est un point que je veux redire. On n'entend pas assez parler. Quand ils sortent de la DPJ, on les laisse tout seuls, complètement vulnérables. T'sais, accompagnez-les, bâtons, c'est tout le travail qu'on a fait avec eux autres. Après ça, on dit, tiens, t'as eu 18 ans.
Va vivre ta vie.
Va vivre ta vie, puis t'as pas de sport. Ben oui, mais ça peut mal finir, là. Mais est-ce qu'il y en a des centres où on pourrait prendre exemple, où on voit des améliorations? Y en a-tu un centre qui va bien quelque part?
Hey, j'aimerais tellement ça de dire oui. Il y a des petites brides de lumière une fois de temps en temps. Il y a des unités qui sont aménagées. Comme là, j'ai su à Valleyfield, il y a un homme d'affaires qui m'a entendu en conférence. Il a décidé de réunir ses collègues, les hommes d'affaires, puis ils ont décidé de faire une grande levée de fonds pour construire, écoutez bien ça, là, pour construire des jeux à l'extérieur du centre jeunesse. Des petits modules, des terrains de sport pour leur permettre de bouger parce qu'il n'y avait pas ça.
Wow.
On m'envoyait des photos, j'avais les larmes aux yeux. C'est la base, là. C'est juste la base. Mais si vous voyez le avant, le après, avant, là, je veux dire, c'était d'une tristesse infinie, là. Puis là, ben, au moins, il y a un peu de vie. Mais, vous voyez, c'est qui a pris ça en main? Ben, c'est nous
privé.
Autres.
Ah,
qui,
c'est,
le privé. Donc, tu sais, il y a des petites brides comme ça. Mais vous savez qu'à travers le Québec, en ce moment, dans les centres jeunesse, il y a le tiers des centres jeunesse du Québec qui sont en piteux état. On parle d'endroits, là, c'est vétuste, là. Il y a des infiltrations d'eau. Il y a de la moisissure.
Ben, comme le reste, là. Ça va être le reste.
Ben, comme le reste. Mais, tu sais, honnêtement, là, moi, je suis allée là, juste ici à Montréal, au Mont-Saint-Antoine, il y a 140 garçons. Là. Puis vous, puis moi, puis n'importe qui nous écoute, là, on n'accepterait jamais que nos enfants vivent dans des conditions comme ça. Je ne sais pas c'est quoi le message qu'on envoie, mais dans l'unité là, où j'allais souvent, il y avait de la moisissure dans les douches. Le bain était condamné depuis 2 ans. Il n'y a pas un enfant qui pouvait prendre son bain. Il y avait un gros tape rouge sur le bain. Je me souviens, il y avait juste un lavabo sur 3 qui fonctionnait. La douche était tellement sale, j'aurais même pas pu imaginer mettre mon pied là-dedans. Ça sentait la moisissure. Tu sais, il y a des champignons. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu te dis, ces enfants-là, déjà, qui ont vécu des choses épouvantables, on les fait vivre dans des conditions comme ça. Puis, c'est quoi le message qu'on leur envoie? Puis ça, c'est le tiers, là.
Ouais.
Je veux dire, c'est le plus de 30% des centres jeunesse du Québec sont dans un état comme ça. Fait que j'aimerais ça vous dire que tu sais, il y en a de la lumière, mais pour l'instant, j'en vois pas beaucoup.
Elle est loin. Dans le tunnel, mais elle est loin dans le tunnel. Après tout ce que vous venez de raconter, à 18 ans, on ouvre la porte et on dit voilà, tu n'es plus la jeunesse. Bonne vie d'adulte. Et c'est là où vous êtes arrivé avec votre proposition, l'équipe jeunesse, que vous avez cofondée, je pense, avec Mme Murdoch, c'est tout ça?
Amélie Murdoch, oui.
Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut... Parce que là, vous allez reprendre le travail qui n'a pas été fait là où il est rendu, c'est-à-dire dans le trouble. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Est-ce que c'est des dons? Est-ce qu'on peut donner du bénévolat? C'est quoi le... Qu'est-ce que vous faites en gros? Puis comment on peut vous aider?
Toutes ces réponses sont bonnes, mais en fait, on se rend compte que quand ils sortent, ben c'est pas compliqué, ils ont rien. T'sais, ils mangent pas à leur faim, ils ont pas de vêtements, ils ont souvent des tu sais, il y a une jeune femme qui est arrivée la semaine passée, j'ai fait un peu le saut, elle est rentrée, puis elle avait des bas dans les pieds. Elle arrivait là, elle avait pris le métro là, elle avait juste des bas. Fait qu'elle s'est rendue à notre organisme nu-pieux. J'essaie dans ce temps-là de les accueillir avec beaucoup de respect, de dignité, parce que c'est comme la base. Parce que si on veut que cette jeune femme-là puisse reprendre le contrôle de sa vie, reprendre confiance, se trouver un emploi, retourner à l'école, si elle s'en vient chez nous, puis qu'elle n'a pas de souliers, puis qu'elle n'a pas de vêtements, déjà, c'est la base. Puis ils me disent tout le temps, la phrase, à chaque fois, c'est « j'ai faim ». Nos jeunes ont faim. Comment voulez-vous qu'ils puissent maintenir un emploi, garder un emploi s'ils sont affamés. Donc, nous, on a décidé de répondre aux besoins. Tu sais, la pyramide là, de Maslow, là, ouais. Les besoins de base ne sont pas comblés. Sont pas là. Fait que nous, on vient combler
mais
les besoins
si
de base.
Mais si vous n'êtes pas là, là juste, je ne veux pas interrompre, mais si vous n'êtes pas là, c'est la rue, c'est l'itinérance.
Bien, il y en a beaucoup qui sortent de la rue.
Parce que ce que vous me décrivez, c'est une itinérante qui arrive. Là.
Bien, en fait, elle vient de sortir de la rue. OK? Il y a plusieurs hébergements temporaires. OK? Puis les jeunes, ils peuvent être hébergés entre 3 et 6 mois, par exemple dans les auberges du cœur ou d'autres. Il y a 2159 à Longueuil. À Québec aussi, il y a des hébergements temporaires. Quand le jeune, il sort de la rue, il se présente. Puis souvent, il y a juste les vêtements qu'il porte sur le dos. Puis les intervenants qui sont sur place là sont dépassés par la situation actuelle. Juste les auberges du cœur du Québec, là, il y en a plus d'une trentaine. Elles ont refusé 6000 demandes d'hébergement cette année. Fait que quand il y a un roulement, comme vous pouvez pas imaginer, le but, c'est de leur trouver un emploi, de les stabiliser. Souvent, ils n'ont plus de papier non plus. Ils n'ont pas de numéro d'assurance sociale. Ils n'ont plus de carte d'assurance maladie. Faut les stabiliser. Les gens sont dépassés. Fait que eux, ils les envoient, puis on forme une équipe ensemble. On répond aux besoins de base. Faut les calmer leur système nerveux. Quand ça fait plusieurs semaines, des fois, voire plusieurs mois qu'ils sont à la rue, là, on a besoin de plusieurs semaines pour calmer leur système nerveux, leur dire qu'ils sont en sécurité, puis on n'a pas beaucoup de temps pour les remettre sur pied. Parce qu'après ça, il faut leur trouver un appartement. Souvent, c'est des appartements supervisés, avec parfois des colocs, parfois des petits studios.
Mais c'est un job, là, c'est de l'accompagnement au jour le jour.
Oui, tellement. Puis nous, on s'assure aussi, comme ils n'ont pas de meubles, bien, à Équipe Jeunesse, on a un service où on aide les jeunes à se meubler. Il y a des gens qui nous font mensuellement, presque chaque semaine, je reçois des meubles. Puis c'est particulier parce que, tu sais, il y a 2 semaines, j'ai reçu 8 télés. Puis une semaine après, j'en avais plus une. Les jeunes étaient tellement heureux d'avoir une télé. Là. C'est comme si on leur donnait là, 1 000 $, tu comprends? Hey, une télé! Puis moi, là, je peux vous dire là, que ça me replace là, en tabarouette. Puis que j'ai pas envie de me plaindre jamais le soir, tu sais. Mais tu me dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben oui, bien sûr, des dons en argent. On aide des jeunes partout au Québec. On a aidé beaucoup dans la région de Québec cette année. On a aidé à Lévis. On a aidé aussi en Beauce. On est allé jusqu'à Rimouski, La Pocatière, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je pense que c'est important d'être très solidaire en ce moment. On collabore avec à peu près 70 organismes partout au Québec qui aident les jeunes en situation de grande précarité. Puis on veut continuer, nous, à faire grandir ces collaborations-là parce que visiblement, c'est pas en travaillant chacun de notre bord qu'on va y arriver. Fait qu'il faut qu'on travaille ensemble. Il n'y a pas de compétition, ça n'existe pas. Faut qu'on se retrousse les manches. Puis, tu sais, c'est bien beau à Québec. Moi, personnellement, mon réservoir d'espoir pour ce qui est de Québec, il est vide. J'ai tout essayé pour les solliciter, pour influencer les décisions, puis visiblement, ça ne fonctionne pas. Donc, mon espoir, maintenant, je la mets dans les jeunes, dans les gens qui veulent nous aider à Équipe Jeunesse à continuer à faire grandir ça. Puis, il faut savoir que nous, 100% des dons qui sont reçus sont distribués aux jeunes. Ça, c'est vraiment important pour nous.
Quel triste constat, mais en même temps, quelle force de caractère. Merci. Écoute, moi, mes enfants n'ont pas eu affaire à la DPJ de près ni de loin, mais merci pour les autres. Merci de faire ce que vous faites parce que pour le futur, ça va être important que ces jeunes-là ne se ramassent pas justement dans des situations pires, dans le crime organisé puis dans l'itinérance. Donc, merci de faire ce que vous faites. J'encourage les auditeurs. Équipejeunesse.ca, c'est le site Internet.
E-K-I-P.
Oui, équipe E-K-I-P. Mais j'ai essayé, si on écrit Équipe Jeunesse sur Google, on l'a là, très rapidement dans les suggestions. Donc, merci beaucoup pour ce que vous faites, puis merci d'avoir pris le temps de nous parler, Mme Audette, c'est très apprécié.
Bonne journée.
Merci, bonne journée, vous aussi.
Bye.
Bye. Wow.
Oui, il y a du travail à faire, hein, mais...
Québec, elle a abandonné ça, là. Ouais. Elle dit, moi, je ne vais plus parler aux politiciens.
Ouais. Non, ça ne donne rien.
Ça donne rien.
Il n'y a pas personne, ils n'ont pas de porte-voix.
Non. La semaine passée, 14 jeunes... nouvelles lois, Pat. Ouais, y a-t-il une loi sur la DPJ?
Non,
sur le Red Bull, par exemple.
Les jeunes, ça ne vote pas. Oui, mais ça, c'est les apparences.
L'émotion.
Exact. Hein? En apparence. Il faut faut sauver nos jeunes. OK, parfait. On a coupé dans le sport. Oh, on a normi. OK, ouais. Parfait. Mais vos écoles, comment ça va? Ouais, ben là, il faut faire des choix. Ouais, hein?
Comme tu dis, on a coupé les autobus. Ouais.
Tu sais, elle parlait de prison puis de pénitencier, que ça avait l'air de ça. Moi, c'est parce qu'à un moment donné, je voulais laisser le focus sur les centres jeunesse, là. Mais c'est parce que, dans le fond, dans notre quotidien, là, il y a bien des fois, tu sais, à force de voir quelque chose, on le voit plus, là. Mais quand il y a certaines écoles, quand vous regardez la cour d'école...
Ah oui, c'est des cours de prison.
Oui. C'est des grages. Je veux dire, c'est dégueulasse.
C'est des tas de pelouses pas coupées avec des clôtures frosses.
Mais on s'en rend plus compte. Parce que tu dis, ben non, c'est pas une école.
C'est pas super. Ouais. Oh, nous autres, t'as payé que ça.
Ouais, c'est ça. Mais des fois, tu fais comme, hey, c'est d'une tristesse inouïe, mais les jeunes ne votent pas.
Exact. Surtout, encore moins eux autres. Équipejeunesse.ca, si vous voulez, bénévole, faire des dons d'argent, mais comme elle dit aussi, de matériel, des divans, des télés. On essaie de s'aider quand le gouvernement peut rien faire, mais le gouvernement a notre argent. C'est ça.
Willette.
Non.
En direct.
On revient dans pas long.
Radio X.